Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Exprimez-vous, l'antenne vous appartient, vous choisissez véritablement le contenu de l'émission, c'est la libre antenne, donc vous nous appelez et vous commentez véritablement l'actualité de votre choix. On a toujours et encore des réactions sur ces consultations en Guinée concernant la nouvelle constitution, on en parlera évidemment. On reviendra aussi sur la fin de cette polémique autour des obsèques de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, des témoignages sur la gratuité de l'école primaire en RDC, elle est censée être effective depuis une semaine, depuis la rentrée, est-ce le cas véritablement? On aura un parent d'élève, je crois, qui souhaite s'exprimer. Et puis un coup de gueule, le coup de gueule d'un chauffeur routier qui est au chômage technique depuis maintenant 3 semaines, depuis la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin. Mais d'abord, autre sujet qui a suscité énormément de réactions hier pendant l'émission, celui du dialogue national annoncé par le président camerounais Paul Biya pour régler le conflit séparatiste qui ensanglante les deux régions anglophones du pays depuis maintenant 3 ans. Bruno, bonjour.
Bonjour, hein, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Yaoundé et comme tous les Camerounais, vous avez évidemment suivi cette allocution à la Nation mardi soir, radio, télévision. Les Camerounais étaient à l'écoute, d'autant que plusieurs crises secouent le pays. L'essentiel du discours apporté donc sur la crise séparatiste, ce conflit qui ensanglante le nord-ouest et sud-ouest du pays depuis 3 ans, qu'en avez-vous pensé, Bruno?
Bah écoutez, Juan, ce que moi je veux dire de ce discours, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour que le dialogue inclusif puisse apporter un changement à la crise actuelle. Vous savez, c'est une crise qui a mis 3 ans déjà, qui s'est envenimée, et si elle s'est envenimée, c'est parce que le pouvoir de Yaoundé n'a pas su agir à temps. Alors, après 3 ans, on nous propose un dialogue, c'est vrai que mieux vaut tard que jamais, mais avec qui est-ce qu'on va dialoguer, étant donné que les figures qui sont censées intervenir en lieu et place des personnes qui se sont radicalisées sont emprisonnées et que certaines figures politiques qui sont censées intervenir dans le débat sont également en prison, en l'instar de Maurice Kamto. Mmh. Alors moi, je me demande de quel débat s'agit-il, avec qui est-ce qu'il va falloir débattre
dans quel but? Trouver une issue à la crise, restaurer la paix, voilà le but, l'objectif de ce dialogue que le président souhaite inclusif.
Exactement, il souhaite qu'on retrouve la paix, mais la paix dépendait du gouvernement depuis le départ, vous voyez. Depuis le départ, ça dépendait de la paix, mais ils ont laissé la situation arriver là où elle en est, avec plus de 2000 morts aujourd'hui, et avec un tas de personnes en prison. Je tiens à vous rappeler que les personnes qui n'étaient même pas radicalisées au départ sont tous en prison. Il y a près de 1200 personnes non radicalisées en prison, en plus de ceux qui se sont radicalisés et ont réclamé la sécession, avec en tête Ayuk Tabe, qui est également emprisonné.
Alors justement, Julius Ayuk Tabe, le leader des séparatistes, a été condamné à la prison à vie il y a 3 semaines. Que faut-il? Le libérer pour qu'il puisse participer à ce dialogue?
En principe, il faudrait le libérer pour avoir un interlocuteur qui puisse faire poids sur tous ces groupes armés qui sont dans le nord, ouest et dans le sud-ouest. Parce que s'il n'y a pas une personne qui va faire poids sur eux, qui pourra parler en leur nom, franchement, avec qui est-ce qu'on va devoir débattre?
Alors, justement, je vous propose de débattre avec Amos. Il est également camerounais, il nous appelle de la région parisienne. Bonjour Amos.
Oui, bonjour Juan.
Vous saluez cette annonce?
Oui, parfaitement, je salue cette annonce, mais ce qui m'horripile, c'est que les Camerounais veulent faire le débat avant le débat. Les gens ont souhaité le débat, maintenant qu'on annonce le débat, ils estiment que les conditions ne sont pas réunies pour ce débat-là. Je tiens à rappeler à mon compatriote que le débat a commencé, les consultations ont commencé depuis. Vous allez constater que le Premier ministre était sur le terrain. Le Premier ministre a déjà fait beaucoup de rencontres que les gens dont les gens n'étaient pas au courant.
Oui, enfin, en même temps que le Premier ministre soit allé sur le terrain, ce n'est un secret pour personne. Il a fait une visite, si ma mémoire est bonne, au mois d'avril. Il s'est rendu dans les régions anglophones du pays pour prôner la bonne parole, si vous me permettez l'expression, et commencer à sensibiliser les populations sur la nécessité d'un dialogue.
Oui, tout à fait. Et je vous dis, la semaine passée ou surpassée, il a reçu les religieux, dont le cardinal Christian Toumi.
Oui.
Donc, tout était déjà en train d'être préparé avant le discours du président.
Ouais. Le cardinal Christian Toumi, qu'on a pu entendre cette semaine sur l'antenne de RFI, et qui dit il dit croire dans la bonne volonté du président de la République pour tout faire et que ce problème soit résolu une bonne fois pour toutes. Hein. Ce sont les propos qu'il a tenus sur notre antenne. Il faudra discuter sur quoi, Amos ?
Il faudra discuter sur tout. Il faudra discuter sur tout, sauf de la sécession, ouais. Le président a dit. Donc, là maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens lui prennent des intentions et pourquoi les gens veulent s'accrocher à certaines personnalités. Mon compatriote vient de parler d'Ayuk Tabe. Ayuk Tabe ne représente rien, c'est pas Ayuk Tabe. On connaît les gens qui influencent les groupes armés sur le terrain. Nous avons Ayabasho, Lucas, qui est en Norvège. Nous avons Pan Aivo. Nous avons les autres qui sont là. C'est pas Ayuk Tabe qui
l'est. Enfin, Ayuk Tabe est présenté comme le leader des séparatistes anglophones. Il y a effectivement d'autres personnalités, puisqu'il y a des clivages au sein du mouvement séparatiste. Il y a plusieurs groupes séparatistes. Mais encore faut-il qu'ils acceptent de déposer les armes pour aller discuter, pour aller négocier et dialoguer.
Et le président leur a tendu dans la perche. Il a dit, venez, on discute. Et on attend donc leur réaction. Maintenant, ils n'ont même pas encore réagi, que les gens s'accrochent déjà à certaines personnes. Ayuk Tabe n'est pas là.
Donc, ouais. Enfin, un des principaux groupes séparatistes au Cameroun, un groupe qui se fait appeler gouvernement intérimaire de l'Ambazonie, est prêt au dialogue, mais à certaines conditions, et notamment la libération des prisonniers politiques, un cessez-le-feu, puisqu'on a pu entendre le porte-parole adjoint de ce groupe ce matin sur RFI, qui disait on ne pouvait pas dialoguer tant que les militaires continueront à commettre des exactions dans les régions anglophones. Le débat, en tout cas, est loin d'être clos. Merci à tous les deux, Amos de la région parisienne et Bruno de Yaoundé. Autre dialogue en vue en Guinée, cette fois. En Guinée, nous sommes à un an de la fin du deuxième et théoriquement dernier mandat du président Alpha Condé. Et voilà que le chef de l'État a proposé il y a quelques jours d'organiser des consultations sur l'opportunité d'une nouvelle constitution. L'opposition est vent debout. Elle a déjà fait savoir qu'elle ne participerait pas à ce dialogue. Bonjour Abdourahmane.
Bonjour Monsieur Wang, comment allez-vous ?
Très très bien. Comme de très nombreux Guinéens, vous souhaitez prendre la parole sur RFI. Eh bien, on vous la donne. Profitez-en. Comment réagissez-vous à ce dialogue qui s'annonce ?
Ok, en fait, le dialogue, moi, je suis pas pour le dialogue, mais je suis pour que l'opposition, les classes sociales participent à ce dialogue parce que c'est un piège.
C'est un piège. C'est-à-dire, développer.
En fait, lorsque le président a instruit au premier ministre de gérer les consultations, de les mener. Voilà, je trouve que ça coûte absolument rien à l'opposition plurielle, aux classes sociales guinéennes, d'aller dire non, ce qu'elles ont toujours dit dans le riz ailleurs. Et c'est une occasion de venir officiellement dire à tout le peuple, à la communauté internationale, à tout le monde, voilà qu'elles sont carrément opposées à un nouveau projet de nouvelle constitution.
Ouais. Pour vous, comme l'opposition, vous êtes convaincu que derrière cette consultation, derrière une éventuelle nouvelle constitution, il y a la volonté du chef de l'État de se maintenir au pouvoir, de briguer un troisième mandat ?
C'est absolument ça. Sinon, le pouvoir aurait souhaité apporter des révisions à cette constitution. Ou si c'est pour dire que la constitution n'a pas été adoptée par le peuple, il aurait fait adopter cette constitution par le peuple au lieu de songer à un changement de constitution. Donc c'est purement pour se faire, si vous voulez, un troisième mandat. C'est pour extorquer à ce peuple-là un troisième mandat. Et voilà, pourquoi pas un mandat à vie.
Ouais, un mandat à vie. Bon, Abdourahmane, merci d'avoir appelé. Amadou, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes également dans la capitale guinéenne. Qu'avez-vous pensé de cette proposition du président Alpha Condé ?
Moi, je pense bien que nous sommes entre Guinéens. Vous venez de dire, vous avez interrogé un monsieur tout de suite au Cameroun qui a donné son point de vue. On est en train de négocier au Cameroun, on négocie après combien de morts, après combien de déplacés. Pourquoi ils n'ont pas commencé par les négociations pour s'entre-consulter ? Parce que c'est des Camerounais.
Attendez, Amadou, vous souhaitiez parler du Cameroun ou de la Guinée ?
Non, je donne un exemple.
Bah oui, alors parlons de la Guinée, le temps passe vite alors. Que pensez-vous de cette proposition, vous ?
C'est une proposition indispensable pour que la Guinée se développe. Il faut qu'on se consulte entre nous pour donner nos idées. Il n'est pas dit que vous partez pour accepter ce que l'autre veut. Mais si vous vous consultez, chacun aura l'idée sur ce que l'autre veut. Mais le président Alpha Condé n'a jamais dit qu'il veut un troisième mandat. Il n'a jamais dit cela ici. C'est les gens qui inventent la suite.
Bah attendez, c'est les gens qui inventent. Excusez-moi, Amadou, soyez honnête. Avec vous-même, vous ne pouvez pas dire que les gens inventent. Certes, le président, lui-même, personnellement, il ne s'est jamais exprimé sur la question. Il maintient le doute. En revanche, son entourage, les membres du gouvernement, le Premier ministre a dit tout le gouvernement est favorable à une nouvelle constitution. On a entendu ici et là des très proches du chef de l'État prendre la parole depuis un an, donc vous ne pouvez pas dire que les gens inventent.
Je vais vous dire que le peuple est souverain. L'article premier de notre actuelle constitution le dit. Personne ne peut représenter le peuple, c'est la souveraineté du peuple qui donne son président. Et si ces antécédents vantent là, si même le gouvernement n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, le gouvernement ne représente pas la Guinée, ne représente pas les citoyens. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Au Sénégal, Abdou Diouf a modifié la constitution. Mais quand il est venu, quand ils sont partis aux élections, le peuple a choisi l'actuel président, non ?
Donc vous dites qu'il faut, aller au dialogue. Si toutefois la nouvelle constitution est adoptée, eh bien le dernier mot reviendra au peuple au moment de l'élection présidentielle. C'est ce que vous dites en substance. Là aussi, le débat est loin d'être clos et c'est promis, on aura l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines en fonction de l'évolution de l'actualité. Dans la libre antenne maintenant, le témoignage de Robert. Je vous en parlais en substance tout à l'heure, en début d'émission. Robert, il est chauffeur routier. Il nous a envoyé un commentaire, je ne sais plus si c'est sur WhatsApp ou sur Facebook, mais il souhaite témoigner car cela fait maintenant 3 semaines qu'il est au chômage technique. Bonjour Robert.
Oui, bonjour, Anne.
Vous êtes à Kétou, dans l'ouest du Bénin, et vous ne pouvez plus travailler, car depuis maintenant 25 jours, les frontières entre le Nigeria et le Bénin sont fermées.
Oui, effectivement, Anne.
Eh bien, on vous écoute, allez-y.
Oui, j'aimerais vous témoigner. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Oui.
Bon, Anne, je tiens à vous informer que depuis 25 jours, effectivement, comme vous avez dit, nous sommes bloqués à la frontière entre le Nigeria et le Bénin. Et rien n'est passé plus, rien ne rentre. Et on a la difficulté de rentrer dans le Nigeria, la difficulté aussi de sortir dans le Nigeria. Maintenant, allô ?
Oui, mais je vous écoute attentivement.
Oui, maintenant, moi, j'aimerais demander aux deux gouvernements de trouver une grande dialogue entre eux. La solution n'est pas que de fermer les frontières.
Oui. Je rappelle que officiellement, en tout cas, le président Bouhari a déclaré que les frontières, parce qu'il y a 3 frontières terrestres, ont été fermées pour bloquer les activités de contrebande. Vous savez qu'il y a du riz de contrebande, des voitures d'occasion de contrebande, on parle de poulets congelés, de tissus de contrebande, etc., etc. Donc on a fermé la frontière pour lutter contre les contrebandes. Effectivement, ça a des répercussions et des conséquences économiques. Vous ne pouvez plus travailler, votre entreprise ne travaille plus, on voit bien que les cambistes, eux aussi, sont au chômage technique, toutes les personnes qui vendent de l'essence de contrebande, bah là aussi, sont au chômage technique. En tout cas, on l'a annoncé cette semaine, théoriquement ce week-end, les deux présidents se rencontreront à Ouagadougou pendant le sommet du G5 Sahel.
Voilà, ça. Là, la deuxième fois, ils se sont rencontrés. Pour la première fois, je vous rappelle que la semaine passée, ils les ont rencontrés en Tokyo.
Oui, c'est vrai. Ils se sont rencontrés en marge du sommet Japon-Afrique. Bon, ça n'a rien à donner. En tout cas, ils se sont rencontrés et un dialogue. Le dialogue est maintenu entre les deux chefs d'État. Robert, merci de nous avoir appelé, d'avoir témoigné sur l'antenne de RFI. Voilà, vous étiez un peu angoissé à l'idée de passer à l'antenne, mais voyez, tout se passe très très bien. Bonne journée, bon courage à vous et rappelez-nous d'ailleurs pour nous tenir informés de la situation de l'évolution à la frontière. Bruno, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes à Kinshasa et vous souhaitiez profiter de la libre antenne pour nous parler de la gratuité de l'école primaire dans votre pays. Elle est censée être effective depuis la semaine dernière, hein, depuis la rentrée scolaire. Visiblement, ce n'est pas le cas dans tous les établissements publics du pays. En tout cas, pour vous, c'est une bonne mesure.
Oui, effectivement, Juan, c'est une bonne mesure. C'est vraiment une très belle initiative du chef de l'État. Néanmoins, je reste un peu inquiet sur son effectivité. Ceci d'autant plus que, comme vous le savez, le pays traverse plusieurs difficultés sur tous les plans. Et je me demande où est-ce que le gouvernement va trouver des moyens suffisants pour que cette gratuité de l'enseignement primaire soit réellement effective.
Oui. Oui. C'est-à-dire que vous craignez que l'État ne trouve pas le budget pour garantir cet engagement qui est une promesse électorale du président Tshisekedi. Et je le rappelle, la gratuité de l'enseignement de base est garantie par la Constitution. Seulement, le problème, c'est qu'elle n'a jamais été appliquée, cette gratuité de l'enseignement de base. Alors, il va falloir trouver de l'argent quelque part, Bruno, pour financer justement l'enseignement gratuit.
Effectivement, il faudra trouver de l'argent quelque part, mais présentement, je me dis, c'est pratiquement difficile parce que nous traversons pas seulement au niveau de l'enseignement primaire, mais aussi même au niveau de la santé, il y a des problèmes. Et je me demande où est-ce que d'un seul coup, nous allons trouver des moyens suffisants pour la gratuité de l'enseignement primaire.
Oui, d'autant qu'il va falloir de l'argent, hein, et incontestablement, d'autant que les enseignants ont des revendications salariales. Jusqu'à présent, pour ceux qui ne connaissent pas la République démocratique du Congo, le salaire des enseignants était pris en charge par les parents. Donc maintenant que l'école est gratuite, eh bien c'est à l'État de payer directement les enseignants. Il aurait fallu quoi, Bruno? Peut-être procéder par étapes, dire, écoutez, cette année, on commence avec, allez, vous allez payer 50%, l'année prochaine, vous ne payerez plus que 25%, et puis dans 2-3 ans, l'école sera véritablement gratuite. Il aurait fallu procéder comme ça, par étapes.
Exactement, Juan. Ça serait vraiment une très bonne chose. Parce que je me dis, présentement, franchement, à mon humble avis, c'est pratiquement impossible que la gratuité soit effective. Il faudrait passer étape par étape et peut-être que ça pourrait marcher malgré
suivre
la bonne foi du gouvernement.
Merci Bruno d'avoir appelé de Kinshasa. Bonne journée, excellente fin de semaine à vous. J'avais prévu de prendre plusieurs auditeurs sur Robert Mugabe, décédé il y a une semaine. Héros de l'indépendance pour les uns, tyran, obsédé par le pouvoir pour les autres. Ibrahim, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Vous êtes à Dakar et vous souhaitez surtout retenir de Robert Mugabe, eh bien, le libérateur, le panafricaniste.
Oui, effectivement, je voulais saluer cette grande figure africaine qui s'est battue depuis sa jeunesse jusqu'à en traversant le siècle au service de l'Afrique, au service de la liberté. Il est vraiment, on ne peut pas occulter certains erreurs, mais qui ne peut pas du tout atterrir, si vous voulez, cette grande figure africaine. Mmh. Comme lui, comme Robert Mugabe, comme Félix Mbembe, etc. C'est des grands hommes qui ont marqué notre siècle. Et je voulais vraiment saluer sa mémoire et m'incliner devant.
Et en même temps, à ceux qui ne retiennent que l'aspect négatif de Robert Mugabe, la répression, il a ruiné son pays, les atteintes aux droits de l'homme, etc., etc. Qu'avez-vous envie de leur répondre, Ibrahim?
Oui, mais vous savez, comme disait De Gaulle, tout grand homme a été petit. Et à un moment donné, et De Gaulle lui-même a été petit en Algérie. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a des trucs qui sont inéable à la vie de l'homme et que vraiment, moi, je pense qu'il faut retenir la grandeur de l'homme.
Voilà
parce
qui
que
est
ce
dit.
Monsieur qui a pu quand même tordre la queue du lion britannique, c'était pas facile.
C'était...
Et moi, je trouve bon. Que ça, c'est vraiment évident.
Merci. Voilà, je vous interromps, Ibrahim, on va être coupé, c'est la fin de l'émission. Merci à tous de votre fidélité.